Donc, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle séquence biblique, cette année consacrée au livre Ézéchiel. Donc, je vous fais passer un programme des rencontres avec les dates et les thèmes et chapitres qui seront étudiés. J'ai fait en sorte que ce soit le plus exhaustif possible et que nous ne passions pas à côté des textes importants d'Ézéchiel. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin du mois de juin, vous ayez vraiment une connaissance du livre d'Ézéchiel, à la fois ce qui est dit et puis le sens de ce texte. Pourquoi Ézéchiel ? Parce que quand l'an dernier, on avait évoqué les différents thèmes possibles, certains avaient dit un livre de l'Ancien Testament, d'autres un livre prophétique, d'autres le livre de l'Apocalypse, d'autres une épître de Paul. En dehors de l'épître de Paul, le livre d'Ézéchiel rassemble l'ensemble des autres caractéristiques et il y a même une dimension d'évangile que nous pourrons voir. Donc, Ézéchiel, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, dans la première partie de notre Bible chrétienne, dans la partie des prophètes. Traditionnellement, dans la tradition juive, il y a trois parties. La Torah, qu'on appelle parfois le Pentateuch, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Ensuite, les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Et Ézéchiel est l'un de ces livres prophétiques. Et puis les Ketuvim, ça signifie les écrits. Les écrits, c'est notamment la sagesse, les psaumes, le cantique des cantiques, Job font partie des Ketuvim. Et Torah, Nevi'im, Ketuvim, si vous prenez les initiales, ça fait TNK. C'est pour ça que des fois, vous entendez parler du Tanakh. Le Tanakh, en fait, c'est la Bible hébraïque. Donc, un livre qui est écrit en hébreu. Alors, je vous fais passer une traduction de ce texte. Je vous l'ai mis sur une grande feuille, de façon à ce que vous ayez de la place sur les côtés pour pouvoir écrire vos propres notes. Je garde juste une page. Je ne vous ai pas mis le texte hébreu, parce que je vous rendrai attentif à quelques éléments du texte hébreu. Mais ça ne présenterait pas un intérêt particulier. Je pense que là, ça vous perdrait plus qu'autre chose. Je ferai quelques remarques, bien entendu, sur l'hébreu, parce que sur le plan culturel, notamment, il y a des choses intéressantes. Et puis, pour celles et ceux qui s'intéressent à la langue hébraïque, il y a aussi des anomalies qui peuvent être un sujet d'intérêt, voire d'approfondissement, pour les soirées d'hiver qui s'annoncent longues. L'habitude que nous avons, c'est que je commence par vous dire que ces rencontres sont aussi interactives que possible, hein, que j'ai bien sûr des éléments à vous faire partager, mais que l'idée, c'est que nous puissions discuter ensemble. Donc, je vous dis cela. Et en général, je parle beaucoup plus que ce que j'ai prévu. Hein. Mais ça signifie que vous avez vraiment toute liberté pour intervenir, poser des questions, des remarques, faire valoir de la contradiction. Vous avez peut-être une Bible avec une traduction qui n'est pas celle-ci. Ça, c'est une traduction d'Arby. La traduction d'Arby, c'est une traduction protestante assez proche de Louis II. Par exemple, je sais que l'un d'entre vous a une traduction Chouraki. Bon, il nous en fait profiter parce qu'il y a une trouvaille qui lui semble donner du sens. Ce que je vous recommande, c'est, dans la mesure du possible, d'apporter quand même une Bible. Alors, prenez un petit format. Je sais que c'est lourd, mais systématiquement, je ferai la photocopie du texte que nous étudierons dans une traduction Louis II ou Darby. Mais nous allons aussi aller à droite et à gauche dans les autres livres parce qu'il y a beaucoup d'intertextualité avec Ézéchiel. Et ça peut être plus intéressant pour vous de pouvoir justement profiter des textes auxquels Ézéchiel se réfère ou qui sont inspirés d'Ézéchiel. Donc, si vous voulez en profiter encore plus, n'hésitez pas à apporter une Bible. Il en existe des petits formats. Préférez des traductions œcuméniques de la Bible ou des traductions Bible de Jérusalem et a fortiori Louis II aux traductions en français courant, parce que les traductions en français courant sont vraiment très éloignées du texte hébreu et ça va vous perdre plutôt qu'autre chose. Oui, parce qu'une traduction en français courant est fondée sur ce qu'on appelle techniquement le principe d'équivalence dynamique. C'est un texte qui est destiné à la lecture orale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à l'oral. mais par contre, on s'éloigne du texte et on perd la précision, on perd le détail. C'est plutôt pour créer une atmosphère, pour dégager une interprétation, mais du coup, on y perd par rapport à l'épaisseur de sens. Et l'idée de nos études bibliques, c'est de retrouver la richesse du texte hébreu, du texte grec quand c'est écrit en grec, pour avoir le plus d'interprétations possibles. Je vous en propose une, mais les autres sont les bienvenus. Des fois, je vous en propose plusieurs, parce que des fois, on ne peut pas trancher, on ne peut pas... Voilà, il faut maintenir ce que Paul Ricoeur appelait le conflit des interprétations. Bon, passer ces petites questions. Oui, oui, mais vous pouvez aussi avoir votre propre Bible que vous aimez bien tripoter. Les traductions antérieures à second valent tout à fait quelque chose. Par exemple, alors d'abord, Louis II, c'est quand même 19e. Après, elles ont été révisées. Donc ça va. Si vous prenez une traduction d'Olivetan, c'est vrai que ça ne va pas être fabuleux. Si vous prenez celle de Castellion, elle est sympathique. Mais
du vieux français.
Oui, c'est même du François, en fait. Et c'est intéressant, mais la Bible de Castellion, elle est grande. Donc, bon, faites comme vous voulez. De toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Habituellement, je vous faisais lire le passage et puis on le reprenait. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre notre texte verset par verset, parce qu'il est suffisamment broussailleux comme cela pour qu'on prenne le temps de le prendre verset par verset. Donc, je ne vais pas vous le faire lire. Je vais lire à chaque fois le verset en question. Et puis, on rentre dans le vif du sujet et on essaie de mener une enquête policière. On imagine que là, on a en quelque sorte les preuves, les évidences, et on essaie d'échafauder des hypothèses pour comprendre ce que ces signes peuvent nous dire. Pourquoi ils sont là, plutôt que pas. Est-ce qu'avant de se lancer, il y a des questions préliminaires? Est-ce que tout le monde a reçu une feuille avec le texte biblique? Parfait. Bien. Donc, voici comment débute le livre intitulé Ézéchiel, un livre qui n'a pas de titre, hein, évidemment. Ézéchiel, c'est un titre d'édition. Et il arriva en la 30e année, au 4e mois, le 5e jour du mois, comme j'étais au milieu des captifs près du fleuve Kébar, que les cieux furent ouverts, et je vis des visions de Dieu. Bien. Donc, classique pour un début de texte, il y a une sorte de mise en place, indication de temps, indication de lieu. Qu'est-ce qui nous manque?
Savoir qui était Ézéchiel.
Savoir. Mais on ne sait même pas que c'est Ézéchiel. C'est-à-dire que là, on va vite en besogne. On ne sait pas qui est le jeu J-E. Celui qui parle n'est pas encore identifié. Alors, à votre avis, 30e année, 4e mois, 5e jour du mois, ça nous donne quoi comme renseignement? On est à quelle époque, là? Alors, la question que je vous pose, c'est en fait pour vous habituer à interroger le texte. Je ne vais pas vous demander pile le jour, l'heure, etc., mais je vous la donnerai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça peut nous donner comme renseignement, ça, de commencer par là? Est-ce que ça nous est utile aujourd'hui? Alors d'abord l'indication temporelle.
Oui, on ne connaît pas l'origine du temps.
On ne sait pas quelle est l'origine du temps. Et, alors faisons des hypothèses.
C'est le début d'un règne.
Alors le début d'un ring.
D'un règne.
Ah.
Le verset 2.
Je pensais de... ring au terme de wagnerien.
Le verset 2 de...
Ah, non, on est au verset 1.
Ah, bon.
Donc...
Ils étaient captifs.
Il y a des captifs. Effectivement, c'est une indication temporelle. Alors, la première hypothèse, c'est que c'est le début d'un règne. Peut-être qu'il s'agit d'un roi, et c'est la 30e année de son règne. La deuxième hypothèse... Oui. Très bien.
Le cinquième jour du quatrième mois de ma 30e année.
Voilà. Alors, c'est juste, mais c'est faux. C'est juste parce qu'à mon avis, c'est la bonne interprétation, mais c'est faux parce que le « ma 30e année »,« ma » n'est pas dans le texte hébreu. Mais effectivement, la bonne hypothèse, me semble-t-il, c'est qu'il a 30 ans. Le narrateur a 30 ans. Donc c'est... On en est à l'indication de son âge. Donc c'est une personne qui a 30 ans, 4 mois et 5 jours. Parmi les captifs, alors c'est une traduction qui est un petit peu regrettable parce que le terme hébreu c'est Gola. Et c'est la Gola du coup, c'est Agola, c'est la Gola. Et la Gola c'est les exilés, c'est l'assemblée des exilés. Et la Gola c'est un terme que vous entendez peut-être parce que la Gola c'est ceux qui sont hors d'Israël. Mais aujourd'hui encore c'est un terme qu'on utilise. Hein, les juifs de New York, c'est la Gola, etc. Donc Gola, c'est un terme culturel que vous pouvez retenir. Ce n'est pas tout à fait les captifs, c'est la communauté des exilés. La communauté de ceux qui ont pérégriné et qui sont loin de chez eux.
Selon
l'idée. Oui, mais c'est un singulier, vous voyez. C'est un terme qui parle d'une communauté qui rassemble toutes les individualités dans une entité. C'est important que ce soit une entité.
Est-ce qu'on peut être exilé sans être captif ?
Oui. Ce sera par exemple le cas de Mardoché dans le livre d'Esther. Il est tout à fait libre de ses mouvements, mais il est exilé. Il est près d'Assuérus.
Quand Gola, c'est des exilés, mais qui sont tous hébreux.
La Gola, oui, c'est les fils d'Israël exilés. Donc, on va le voir. C'est la diaspora. La diaspora, c'est une bonne traduction. Si ce n'est que dans diaspora, il y a l'idée d'éparpillement. Là, c'est plutôt l'idée de déplacement. Mais la diaspora, c'est la traduction classique de Gola. Le fleuve Kébar. Alors, le Kébar n'est pas qu'un couteau pour les forces spéciales américaines. Le Kébar, c'est un canal qui donne sur l'Euphrate. Et c'est ce qui permet de rejoindre Babylone à une zone qui s'appelle Warka. Bon, souvenez-vous que c'est un canal qui est sur l'Euphrate. Donc ça veut dire qu'on est au-delà du Jourdain, donc au-delà de la terre promise. Et en fait, on est du côté de Babylone. Donc on a une information. On est à Babylone, une personne a 30 ans, au milieu des déportés. Qui dit déporté ? Diaspora, Gola, dit quelle époque d'après vous ? Peu importe le chiffre, mais quel événement a eu lieu ?
C'est la déportation de
l'exil à Babylone. La chute de Jérusalem n'a pas nécessairement encore eu lieu. On ne le sait pas encore, mais on sait que c'est manifestement après 597. 597, c'est la première déportation à Babylone. Et c'est une indication qui va nous être précieuse. Est-ce que vous voulez quelques indications chronologiques sur l'histoire de l'exil à Babylone ? Oui ? Rapidement, comme ça ? Le contexte historique. Donc, il y a un roi de Juda qui s'appelle Yoyakin. Et il règne de 598 à 597. 597, il y a le siège de Jérusalem par Nabucodonosor, et c'est là qu'intervient la première déportation. Donc 597, première déportation à Babylone. Mais Jérusalem n'a pas encore été détruite. Ensuite, évidemment, il y a une... Un premier événement, c'est en 722, c'est la chute de Samarie, c'est le royaume du Nord, hein, qui a déjà été attaqué et qui a été déporté pour une part. Donc là, c'est le royaume du Sud, Juda. Ensuite, après Yoyakin, ça va être Sédécias. Sédécias est un roi connu. Il va régner de 597 à 587, hein, en chronologie chrétienne, c'est-à-dire que c'est en moins quelque chose, ce qu'on appelle avant l'ère chrétienne. Il y a un règne presque paisible jusqu'à ce qu'en 589, Sédécias se révolte contre Babylone. 588, début du second siège de Jérusalem, et 587, prise de Jérusalem, destruction du temple et deuxième déportation. On verra par la suite si on peut avoir des détails pour savoir si Ézéchiel est dans la première ou la deuxième déportation. Pour l'instant, au verset 1, on est tout à fait incapable de le dire. On va s'en tenir aux informations. Ici, on apprend aussi à respecter le texte. C'est-à-dire que le verset 1, pour l'instant, ne nous apprend que ça. Après, on va avoir d'autres infos, mais on ne va pas trop projeter tout de suite. Le fleuve Kébar, c'est intéressant pour la datation d'autres livres. Par exemple, si on prend le psaume 137, je vous l'ouvre si vous n'avez pas de Bible. Le psaume 137, c'est « Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Donc, vous voyez, auprès des fleuves de Babylone, ils sont notamment près du fleuve Kébar. C'est intéressant parce que souvent on dit « les psaumes, c'est David ». David, ça fait 500 ans que le règne supposé a eu lieu. Donc ça ne peut pas être David qui a écrit ce psaume. Donc le psaume 137 est un témoin que, en tous les cas, quelques psaumes sont ce qu'on appelle des psaumes exiliques ou post-exiliques, ça veut dire qui ont été écrits après cette fameuse date de 597. On estime que David, c'est 1000, pour faire court. Moins 1000. Bien. On est au bord de l'eau. Ça peut être un détail pour vous, mais pour le texte, ça veut dire beaucoup. Est-ce que le fait d'être à côté d'un fleuve vous met la puce à l'oreille sur ce que ça peut vouloir signifier ? Une fois de plus, c'est une hypothèse. On essaie de rassembler le maximum d'hypothèses et après, on voit ce qui tient la route.
C'est quand même totalement différent du désert, par exemple.
Absolument.
Pour la culture, la nourriture, l'eau.
Donc, une région féconde, voilà. Cultivable, effectivement. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Qu'est-ce qui se passe près des fleuves ? Oui ?
Dans un pays désertique,
on mange plutôt la vie. Oui, c'est le même esprit, hein, la vie, la culture, effectivement. C'est intéressant parce qu'on peut se dire déportation, c'est synonyme de mort, de disparition. Le fleuve, c'est plutôt synonyme d'apparition et de vie qui croît. Oui. Moïse, effectivement, a la vie sauve en passant par le fleuve. Est-ce qu'il y a d'autres mentions de fleuve qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille ?
Dans le premier psaume.
Le psaume 1 ?
Oui. On parle justement de l'homme droit qui est comme l'arbre auprès du fleuve.
Voilà, avec les fruits, etc. Oui. Il y a, en fait, l'idée que souvent, le fleuve désigne le lieu à côté duquel il y aura un lieu cultuel, un sanctuaire. C'est le cas dans Josué 5. Josué 5, c'est quand il y a l'entrée du peuple hébreu en terre promise. Il passe le Jourdain et aussitôt, il crée le sanctuaire de Gilgal. On y reviendra. Acte 16, chapitre 16, verset 13, pas la peine d'y aller. Mais vous verrez qu'il y a une référence aussi au fait qu'on va vers le fleuve parce qu'il y a un sanctuaire qu'on conçoit ici. Il y a autre chose, c'est les cieux furent ouverts. Un fleuve et les cieux furent ouverts. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Non, c'est à quoi est-ce que ça vous fait penser ? La bonne question.
L'arc-en-ciel ?
Oui, ça fait un peu plaie d'Égypte, mais à l'envers.
Plaie d'Égypte à l'envers, arc-en-ciel avec Noé. Il n'y a pas tout à fait de fleuve dans Noé.
Baptême de Jésus.
Baptême de Jésus. Baptême de Jésus, ça se passe au Jourdain.
Ouais.
Souvenez-vous que Jean le Baptiste dit « De ces pierres qui sont là, Dieu peut faire des descendants au fils d'Abraham. » Justement, en Josué, quand les Hébreux ont passé le Jourdain, ils ont posé des pierres, 12, une pour chaque tribu d'Israël, une pour chaque fils d'Israël. Et quand Jésus est baptisé, les cieux s'ouvrent. Et une voix vient dire, celui-ci, mon fils bien-aimé. Donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas qu'Ézéchiel copie sur les évangélistes ou qu'il anticipe le baptême de Jésus. C'est qu'il y a ici un motif théologique qui sera réexploité au moment du baptême de Jésus. Ça veut dire que quand on pense au baptême de Jésus, on peut aussi intégrer cette référence d'Ézéchiel. Jésus est baptisé au Jourdain dans un contexte assez semblable à celui de ce qui sera Ézéchiel, ce qui nous fait dire le baptême de Jésus, c'est aussi un équipement pour le chrétien en exil. C'est-à-dire que le baptême, c'est ce qui nous permet d'être honnêtement croyants alors que nous sommes loin du temple. C'est une thématique que l'on reverra à l'occasion avec Ézéchiel.
Est-ce que dans l'Ancien Testament, le baptême existait sous une forme comparable à celle de Jésus?
Il y avait ce qu'on appelait les bains de purification. On va y revenir d'ailleurs. Aujourd'hui encore, il y a les bains rituels. Vous savez, on appelle ça les mikvés. C'est ce qui permet notamment à la gente féminine de pouvoir recouvrer une pureté après les règles, par exemple. Ou alors, vous touchez à un mort, vous êtes impur. Pour pouvoir être réintégré dans la communauté, il faut passer par un bain rituel. Et c'est ce que faisait Jean le Baptiste. En quelque sorte, il s'agissait d'être lavé de ses péchés, lavé de son impureté, dans un registre symbolique. Et puis, avec le christianisme, on en viendra à un bain rituel une fois pour toutes, et pas besoin d'y retourner constamment. Donc, il y a une sorte de rituel qui peut faire penser au baptême. Mais s'il fallait comparer le baptême chez Paul à quelque chose, ce serait la circoncision, en fait, le signe de l'alliance. Est-ce que... Ah oui, je vis des visions de Dieu. Donc... on ne peut pas en dire grand-chose pour l'instant, parce qu'on va voir ensuite en quoi consistent ces visions de Dieu. Mais il y a, en tous les cas, la mention d'une expérience particulière et singulière. Donc voilà, on a passé 20 bonnes minutes sur le premier verset. On va certainement passer moins de temps sur les autres versets. Mais c'est pour vous montrer qu'un verset peut être vraiment exploité. Il ne faut pas hésiter à le presser comme du raisin pour en récupérer le suc. Et tout ce que vous pouvez dégager d'un texte, dans votre travail personnel, votre méditation personnelle, vous pouvez le noter, quitte à ce qu'après vous n'en fassiez aucun usage et que vous vous rendiez compte que vous avez peut-être un peu surinterprété ou fait une hypothèse qui ne servira à rien. Mais l'idée, c'est, quand on veut trouver le sens d'un texte biblique, on met tout ce qui nous passe par la tête, tout ce à quoi ça nous fait penser, et puis on voit si la suite du texte va le vérifier. Là, grosso modo, je ne vous ai donné que les hypothèses qui vont être vérifiées par la suite. On peut passer une année sur un premier verset comme celui-ci. Peut-être pas autant, mais... Verset 2. Oui. Bien sûr. Le judaïsme continue. Beaucoup de catholiques continuent.
L'islam continue, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et j'étais en train de penser aussi que dans les religions, notamment en Inde, bouddhistes et hindouistes, etc., les fleurs sacrées, les gens se purifient.
Ah oui. Donc, je veux dire, c'est... Il n'y a que les protestants qui ne le fassent pas. Car nous n'avons plus de bénitiers. Mais vous avez raison. C'est anthropologique.
Voilà, exactement. On ne se l'explique pas, mais n'importe
quel... Si, si, on se l'explique très bien.
...a besoin de l'eau pour être en état, si je puis dire, de grâce ou s'améliorer.
C'est ce que Arnold von Gennep expliquait dans son étude sur les rites de passage. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans Josué 3 à 5, l'entrée en terre promise. Il y a un rite de passage qui consiste à passer cette frontière symbolique matérialisé par l'eau, qui est à la fois ce qui nettoie, mais aussi ce qui fait mourir et donc qui permet la résurrection. Et le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est faire mourir le vieil humain pour faire naître le nouvel homme. Et le rite de passage fonctionne avec ces trois étapes. Il y a une séparation, donc on se sépare de la saleté. Il y a un temps, donc c'est ce qu'on appelle les préliminaires. Ensuite, il y a un temps liminaire qui est un temps de flottement. On ne sait pas, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on est dans le registre du possible. On peut très bien mourir définitivement ou au contraire, on peut ressusciter. Et dans ce cas-là, c'est le post-liminaire, c'est un rite d'agrégation. Et donc, on adhère à quelque chose. Et les rites de passage, ce sont notamment ceux que l'on a pour l'adolescence, pour la vie d'adulte. Autrefois, la circoncision, c'était un rite de passage pour les adultes. C'est ce qu'on faisait au moment des épousailles. Et puis après, ça a été compris comme un rite d'entrée dans l'Alliance au 8e jour. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a là un motif anthropologique très caractéristique et assez universel. Plus tard, on verra comment les rites peuvent être mangés, digérés et réinterprétés. Le verset 2, c'est ce qui vous manquait. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la transportation du roi Joachim. Donc, de la diaspora, hein, c'est le Golot. Et donc, voilà, ça y est, on l'a notre repère historique. Joachim, c'est celui dont je vous ai dit qu'il était de la première déportation, 597. Mais ça fait 5 ans déjà. Donc, on est en 592. Voilà. Donc, vous savez exactement quel jour on est. Vous prenez un calendrier et vous voyez en 592 quelle époque on est par rapport au mois lunaire. Je vous laisse faire le calcul. Le fait que c'est la première déportation, ça nous donne un petit renseignement. C'est que ce livre va nous mettre en situation de faire face à la catastrophe. C'est-à-dire que si on était dans la deuxième déportation, on aurait eu le temps de s'y préparer. Ça ne veut pas dire que le texte est écrit au fil de l'eau, mais quasiment. On va être face à la réaction de quelqu'un qui doit assumer quelque chose qui n'a jamais été vécu jusque-là. Et donc on va voir comment on fait pour réagir face à une catastrophe à laquelle on n'a pas été préparé. Et c'est très intéressant parce que ce chapitre 1, avec la vision d'Ézéchiel qui vous a semblé certainement un peu exotique et inutile, je vais essayer de vous montrer à quel point il est extrêmement précieux sur le plan de la pédagogie spirituelle. Et en quoi est-ce que c'est une andragogie, en quoi est-ce que ça nous aide à pouvoir nous mener sur le chemin de notre humanité, quand elle est extrêmement malmenée, comme c'est le cas d'une déportation. Quand vous êtes arraché de tout, ou quand on vous arrache tout, quand vous avez l'impression de ne plus être vous-même. J'arrête de prêcher et je retourne au verset 3. Donc, Debar Yahou, la parole de l'Éternel, advint. Elle vint expressément, ça veut dire que elle vint pour de vrai. Hein, c'est Ayou Aya. Donc ça veut dire pour venir, enfin pour advenir, elle est advenue. Sous-entendu, c'est du lourd en hébreu. Vers, et ce coup-ci, on a notre Ézéchiel. Il est là. Ireskel. Donc, ce qui signifie, grosso modo. Dieu est fort, la force de Dieu, ou Dieu fortifie. Vous voyez, il y a une idée de puissance et le divin. Ce qui est paradoxal quand on est en situation de déportation, et qu'on est faible, qu'on est un fétu de paille, et on n'a pas eu le choix de sa destination. Mais celui qui est là, c'est quelqu'un qui s'appelle Dieu fortifie, Dieu est fort. C'est une prédication en fait. Il est sacrificateur, cet homme-là, apprend-on. Donc, il est à Cohen. Il est... Oui.
À propos de sacrificateur.
Prêtre, en fait.
Oui. Enfin, il n'y a pas de différence entre prêtre et sacrificateur.
Non, en fait, là, c'est prêtre au sens de sacrificateur. Il pourrait y avoir une différence au sens où tous les lévites ne sont pas Cohen. C'est-à-dire que les Kohanim, donc les prêtres, les sacrificateurs, le prêtre, c'est celui qui fait le sacrifice au temple de Jérusalem. Donc, qui assure la relation entre le peuple et Dieu. Et donc, ça tourne. Par exemple, le père de Jean-Baptiste est prêtre au temple de Jérusalem. C'est un Cohen. Jésus fait partie des Lévites, en fait, puisque c'est le fils de la cousine de Marie, qui, enfin, oui, enfin, c'est le fils de la cousine d'Élisabeth, Élisabeth ayant épousé Zacharie, qui est prêtre, et donc c'est la classe des Kohanim. Je vous ai perdu là.
Il n'y avait que les descendants des Lévites, ou ceux qui appartenaient, qui pouvaient être prêtres.
Il n'y a que les descendants d'Aaron qui peuvent être prêtres. Donc Moïse et Aaron sont de la tribu de Lévi. Il n'y a que les Lévites qui peuvent être Kohanim. D'ailleurs, quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Cohen, ça veut dire qu'il est de la tribu de Lévi et qu'il est susceptible de pouvoir être prêtre, et susceptible de pouvoir être grand prêtre d'ailleurs. L'idée en Exode 19, c'est qu'un jour, il y aura le sacerdoce universel. Ça sera une nation de prêtres. Mais que pour l'instant... J'avais un professeur d'Ancien Testament, Alfred Marx, qui disait la gestion du sacré, c'est un peu comme l'utilisation du nucléaire. Ça demande des personnes extrêmement qualifiées. On peut faire un peu n'importe quoi avec du religieux. Ça demande des personnes qui ont été formées pour cela. Et les Lévites, et notamment les prêtres, les Kohanim, étaient élevés dans cette perspective de pouvoir gérer ce matériau extrêmement dangereux. Enfin, oui. À la fois... potentiellement très utile et potentiellement très dangereux. C'est la raison pour laquelle, on le verra plus tard, être au contact de Dieu, c'est pas sans poser problème.
Elkana, le sacrificateur de Silo, oui, du temps de Samuel, donc était dans la même position que...
Et le prêtre Élie, auprès duquel Samuel sera, pareil. Ouais. Donc, déporté, ça signifie qu'Ézéchiel a connu le temple de Jérusalem. Ça, c'est un détail à avoir dans la tête, ça va être l'élément décisif. Fils de Buzi, donc ça ne présente pas d'autre intérêt que celui auquel je vous rendrai attentif tout à l'heure. Dans le pays des Chaldéens, Ur en Chaldée, ça vous dit quelque chose? Abraham, hein? Bien. Donc, quand vous pensez à cette intertextualité, vous pouvez vous dire deux choses. Soit c'est un retour aux origines, soit vous pouvez vous dire... Ur en Chaldée. Peut-être que le cycle d'Abraham a été pensé à partir de l'expérience de la déportation en Chaldée. C'est-à-dire que par rapport à la rédaction des textes bibliques, vous pouvez vous dire, c'est ce moment où le peuple hébreu est exilé en Chaldée qu'il va penser à la question de ses origines. Et une hypothèse, c'est que le moment de la déportation est tellement terrible que des personnes vont se demander comment on en est arrivé là. Et quand le temple de Jérusalem va être détruit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça sera une chose. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer? Est-ce qu'il y a encore une promesse pour nous? Est-ce que c'est la fin de notre histoire? Est-ce qu'on va disparaître? Ou y a-t-il autre chose? Et le cycle d'Abraham peut être compris comme la réponse à cette question-là. Nous sommes en Chaldée. Est-il possible de quitter la Chaldée pour... aller en terre promise et être à nouveau à l'origine d'une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur le bord de la mer.
C'est ce qui s'est passé pour nous pendant l'occupation.
Toutes les situations limites où nous risquons de disparaître sont l'occasion de cette réflexion-là. Et on va voir comment Ézéchiel se débrouille pour se reconstruire et reconstruire son peuple avec. Près du fleuve Kébar, il se fiche de nous ou il le fait exprès? Il l'a déjà dit, le fleuve Kébar. On n'a quand même pas oublié déjà. Alors pourquoi il le répète? Soit parce que vous êtes un peu un peuple à la nucrette qui boite des deux hanches et que vous êtes un peu sourd à la parole de Dieu, soit...
C'est classique de répéter les choses.
Oui, c'est pédagogique. Est-ce que c'est une information décisive? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à répéter que près du fleuve Kébar?
Peut-être que c'est très important.
Très important, peut-être. Alors ça peut être une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'on a ici la trace de deux textes qui ont été rassemblés. Un point de suture. C'est-à-dire que il y a quand même un truc bizarre. C'est qu'à la fin du verset 1, on a « Je vis des visions de Dieu » et on s'attend un peu à savoir ce que sont ces visions de Dieu. Et puis, on a à nouveau un verset qui est comme une sorte de mise en situation. Hein ? Il y a comme un verset qui est à nouveau un début de texte, avec le cinquième jour, etc. Ça aurait dû être avant, ça, en principe. Donc, une hypothèse, c'est que nous avons là un point de suture avec deux textes qui ont été mis ensemble. Peut-être, oui, notamment avec les mentions de fils de Buzi. Mais la deuxième mention près du fleuve Kébar aurait tendance à montrer que nous avons peut-être ici au moins deux sources qui se rejoignent et qui sont fusionnées. Alors pour vous montrer cela, je vous ai préparé un document avec l'ensemble des chapitres d'Ézéchiel pour vous montrer qu'en fait... Ézéchiel est constitué de beaucoup de répétitions. Alors, une hypothèse est que ça fait partie du style d'Ézéchiel, et c'est une hypothèse que l'on peut tout à fait maintenir. C'est viable. La parole par la parole. Et une autre, oui, effectivement, une hypothèse qui est faite, c'est que Ézéchiel est peut-être l'un des premiers textes écrits. Et que Ézéchiel est peut-être... un texte écrit d'abord sous forme de prise de notes. Non pas quelque chose qui a été pensé dans une littéralité destinée à être un ouvrage étudié et médité, mais tout d'abord comme quelques notes de survie. Et du coup, un style qui n'est pas toujours très heureux. Une autre hypothèse, c'est que... Et en fait, je pense que l'autre hypothèse est bonne aussi. C'est que c'est un texte qui a été augmenté. Pourquoi est-ce que c'est un des trois grands prophètes, avec Ésaïe et Jérémie? Tout simplement parce que c'est un texte qui a été augmenté au fil des temps. Prenez Amos, vous prenez Osée, vous prenez Malachie, ce sont des petits prophètes, non pas parce qu'ils sont de qualité moindre, mais c'est parce que leur texte n'a pas été retouché, en fait. Ézéchiel, c'est un texte qui a été au moins retouché. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est un texte qui a été retouché par ce qu'on appelle l'école sacerdotale. C'est ce courant littéraire fait de prêtres qui a écrit le début de la Genèse notamment, le premier récit de la création, une partie du déluge, l'alliance d'Abraham avec Dieu, l'école sacerdotale, la couche sacerdotale comme on dit. Maintenant que vous avez les différents chapitres, je vous rends attentif à quelques éléments. Par exemple, si vous allez au chapitre 18... responsabilité personnelle, vous voyez que responsabilité personnelle, on l'avait déjà au chapitre 14. C'est un exemple. Si vous allez au chapitre 25, vous voyez qu'il y a quelque chose contre Édom, et en fait, vous verrez que vous l'avez aussi au chapitre 35. Il y a comme cela des choses qui sont un peu en parallèle. Chapitre 16, l'histoire symbolique de Jérusalem, vous l'avez également au chapitre 23. Alors, ce n'est pas un copier-coller. Mais il y a comme cela des doublons qui peuvent laisser entendre que Ézéchiel est le fruit d'une lecture, d'une relecture, d'une compilation. Ça ne nous intéresse pas plus que cela, mais c'est pour vous y rendre attentif, on verra probablement un autre point de suture tout à l'heure. Donc, près du fleuve Kébar, la main de l'Éternel fut là, sur moi. Et ensuite, on va avoir « Et je vis, et voici, un vent de tempête venait du nord. » Alors, c'est intéressant parce que le vent de tempête, pour Jean-Claude, je pense que ça va évoquer une figure importante, c'est le « ruach », c'est le souffle, Sahara. C'est le Roar Sahara. Hein, ça, c'est le vent de tempête. C'est le souffle du Sahara, en fait. Qui venait du nord, Min Hatzafon. Hatzafon, c'est un mot que vous pouvez retenir. D'abord, ça désigne le nord. Et dans la tradition, c'est vers le nord que se trouve le paradis. Donc, un vent qui vient du nord, c'est un souffle. Ça ne vient pas de l'Orient, c'est pas l'Orient, en fait, hein, le paradis. Un souffle qui vient du nord, c'est l'esprit qui vient du paradis, pour le dire dans des termes religieux. C'est une hypothèse, en tout cas. Mais vous allez voir à quel point tous ces éléments sont des éléments qui convergent, jusqu'à une cathédrale qui remplacera le temple, en fait. Pourquoi est-ce que ça se vérifie ? Parce qu'il y a une grosse nuée. Et la nuée, c'est quand même ce qui signifie la présence de Dieu parmi son peuple, notamment au temps de l'Exode, hors de Jérusalem. Et c'est intéressant, hors d'Égypte, pardon. C'est intéressant parce que on est donc dans une situation d'exil, donc captif, et dès le départ, on nous parle de cette nuée qui est le signe qu'une échappatoire est possible hors de la maison de servitude. Ézéchiel est un texte qui doit ressusciter l'espérance du peuple.
Mais est-ce que la nuée, qui est souvent, qu'on trouve dans, assez souvent dans l'Ancien Testament,
oui,
n'a pas une autre signification ? C'est pas là où, au-dessus de la nuée, il y a Dieu ? Non, ça ne véhicule pas... Non.
Ben, je viens de dire que la nuée désignait la présence de Dieu. Ah. Donc c'est plus que... Oui. Par exemple...
Dieu qu'on ne peut pas voir parce qu'on mourrait, donc il est caché par une nuée.
Exactement. Quand on parle de l'arc-en-ciel, c'est en fait l'arc dans la nuée, hein, pour Noé, en Genèse 9. L'arc-en-ciel, c'est l'arc en nuée, en fait. La nuée qui conduit le peuple, ça c'est Exode chapitre 13, mais c'est aussi cette nuée, Hanan, hein, c'est cette nuée qui couvre la montagne où Dieu va rencontrer Moïse. En Exode 24, c'est ça qui est au-dessus du Sinaï. En Exode 33, c'est cette nuée qui est au-dessus de la tente de la rencontre. Rencontre, une fois de plus, entre Dieu et Moïse, tente de la rencontre qui préfigure le temple de Jérusalem. 1 Roi, chapitre 8, verset 10. 1 Roi 8, ça c'est une référence à voir par cœur, ça concerne l'ouverture du temple de Jérusalem. 1 Roi 8, au verset 10, il y a la nuée qui descend sur le temple de Jérusalem au moment de son inauguration. Ça signifie « Dieu vient habiter cette maison construite par Salomon ». Salomon qui dira, comment ça, le roi des rois, le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs, lui qui est plus grand que l'univers pour habiter dans ce petit truc que je lui ai fabriqué. Voilà, donc il y a cette nuée qui effectivement désigne tout à fait la... Oui, avec la tente d'ailleurs, qui remplace la tente de la rencontre, oui. Donc une grosse nuée, un feu, il y avait donc une splendeur. Ça vive autour. Et puis de son milieu, du milieu du feu, brillait comme l'apparence de l'airain luisant. L'airain, c'est du bronze.
Le feu qui s'entortille, ça a une signification ?
J'ai pas trop repéré ce que ça pouvait être comme signification, si ce n'est que tout à l'heure, on va dire que la vision, elle, ne s'entortille pas. On va dire que les animaux marchent droit en disant qu'ils ne vont pas de côté, et en fait, là, c'est quelque chose qui va de côté. Donc peut-être qu'il y a un contraste entre quelque chose qui est de l'ordre du divin et puis quelque chose qui va manifester autre chose qui... Voilà, on va voir. Peut-être que c'est ça. Je me demande si, entortillé, en fait, c'est pas tout à fait le mot, c'est plutôt tourné. Hein. Je me demande si j'ai oublié de regarder. Je pensais à ces épées qui tournent dans les mains des gardiens du jardin d'Éden. Et c'est pas impossible que ce soit cette idée-là. Mais ça, voilà, ça sera. Vous avez le droit de regarder aussi un peu de votre côté. Le bronze, les reins, ça vous fait penser à quelque chose par rapport au texte biblique ou pas? Oui, oui, c'était d'usage. C'est pas exceptionnel, mais est-ce que ça vous fait penser à quelque chose en particulier? Ouais. Il y a quoi notamment? Oui, un drôle de truc. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, c'est l'intuition, hein, c'est bien, bien vu. Bon. Alors ensuite, on va avoir le début de cette vision un peu extraordinaire, mais à laquelle on a été préparé par tous ces éléments qu'on vient de dire, y compris cette excellente dernière intuition. Donc, et du milieu, donc mi-tok, tok c'est le milieu, le centre, et du milieu, la ressemblance de Mout. Alors la ressemblance, ça peut vous faire penser à la ressemblance que l'homme a vis-à-vis de Dieu. Hein? Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », c'est ce mot-là. Hein? Donc, quelqu'un qui est à la ressemblance de l'homme, et donc à la ressemblance de Dieu. Et donc, on a ici une sorte de mise en abîme. Et du milieu, la ressemblance de quatre vivants. Animaux, c'est impropre à la consommation, cette traduction. Parce que c'est rayot. Raya, c'est la vie. C'est Ève. Et là, on a quatre rayot, quatre vivants. Quatre êtres vivants. Hein, pensez pas à animaux au sens animal domestique, ou etc. C'est d'abord des êtres vivants. Et du coup, la référence à la Genèse fonctionne bien. Et voici leur aspect. Donc c'est voici à quoi ils ressemblent en fait. Hein. Ils avaient la ressemblance d'un homme. Donc, vous voyez, c'est ça cette mise en abîme. L'homme est à la ressemblance de Dieu. Ces animaux sont à la ressemblance de l'homme. Par transitivité, ils sont donc à la ressemblance de Dieu. Donc, on est dans un système allusif au récit de la création en Genèse 1. Donc, n'oubliez les quatre animaux, pensez aux quatre vivants. Donc, verset 6, « Chacun d'eux avait quatre faces. » Donc, le Janus de la cathédrale de Bayeux, c'est de la rigolade. Hein. Donc là, ça commence à être un peu pénible. Déjà, un personnage avec quatre faces. Pour se le représenter. Hein. Et chacun avait quatre ailes. Alors ça, c'est facile, quatre ailes. Quatre ailes, vous en avez vu plein. C'est les petits chérubins comme ça. Ouais, oui, exactement, en face, là, c'est ça. Des personnages avec quatre ailes, ça vous fait penser à quelque chose, par rapport au texte biblique, toujours? Vous en avez déjà vu? Où? Ils sont où, d'habitude?
On en a vu chez Isaïe.
Ouais, mais plus évident. L'Arche d'Alliance. Souvenez-vous, je vais vous faire un petit dessin, ça va vous rappeler les souvenirs. Donc, l'Arche d'Alliance, en fait, Aaron, Abérit, c'est un coffre. Donc c'est un coffre avec ici les barres qui sont dans les anneaux. Et par-dessus, vous avez ici deux chérubins avec des ailes comme ça et des ailes comme ça. Et de chaque côté. Dessus. Et donc, les chérubins sont un phénomène déjà connu dans le texte biblique. Donc,
pas des anges,
parce que... Non, ce sont pas des anges, ce sont des kérubim, donc des chérubins. C'est une catégorie à part. C'est surtout une catégorie d'objets fabriqués. C'est pas une catégorie de vivants. L'Arche d'Alliance, c'est pas des personnages ou des êtres vivants. Ce sont des représentations. Donc il ne s'agit pas d'être divin, surnaturel ou autre. Les kérubim, ce n'est pas une classe d'ange, de ce point de vue-là.
Mais pardon, en Genèse 3,
oui.
C'est bien sûr le kérouf qui garde le paradis.
Oui, mais celui-là, on ne dit pas qu'il a des ailes.
Non, mais c'est le même mot quand même, kérouf. Alors, on a quel concept d'un être vivant qui ressemble à peut-être mythologique, peut-être, c'est difficile à préciser, mais c'est pas seulement une représentation.
Non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a des kérubim sur l'Arche d'Alliance? C'est parce qu'ils ont cette même fonction. C'est-à-dire que je vous passerai tout à l'heure un plan du temple de Jérusalem. Une fois par an, on a donc le grand prêtre qui rentre dans le temple de Jérusalem où se trouve l'Arche d'Alliance. Et l'idée est la suivante, c'est qu'il est autorisé par sa fonction, mais il est aussi autorisé par ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est cette personne digne intérieurement de pouvoir se présenter devant Dieu et de ne pas subir, en quelque sorte, la réplique des chérubins qui sont sur l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que lui a accès au Jardin d'Éden. Et Jésus, plus tard, dira que tout un chacun a accès au Jardin d'Éden, puisqu'il fera aux changeurs exactement ce que les kérubims faisaient. Le terme grec est le même pour désigner l'action qu'il a avec les fouets. Mais le fait de représenter des kérubims avec des ailes, ça a une autre fonction par rapport à l'Arche d'Alliance, c'est que l'Arche d'Alliance, pour la couche sacerdotale, ça sert de trône de Dieu. Et en fait, les ailes, c'est ce qui symbolise à la fois l'assise et le dossier. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une fonction de représentation du siège, du trône céleste et divin. Voilà.
Ça, c'est ces chérubins, ces anges, c'était des catégories qui étaient immédiatement perceptibles par le peuple à l'époque.
Tout à fait connues.
Voilà.
On ne peut plus familier.
Ce que ça représentait.
On ne peut plus familier.
Tandis que nous.
C'est très exotique. Un petit personnage comme ça, à la limite, ça vous fait rire ou ça suscite votre curiosité, mais ça ne fait pas partie de vos animaux domestiques.
Ça ne nous enseigne rien.
Là, on pensait évidemment Arche d'Alliance. Donc quatre faces et chacun avait quatre ailes. Donc ça, c'est très connu. Leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme l'apparence de l'airain poli.
Je reviens un petit peu en arrière.
Oui.
Quatre, ça a quelle signification?
La signification classique, c'est les quatre points cardinaux, les quatre directions. Ça signifie l'universalité. Oui.
Que ce sont les quatre points cardinaux.
Oui. Voilà, mes sources, c'est notamment Maïmonide. Oui, l'idée, c'est l'universalité. C'est que du coup, il n'y a pas de zone qui serait hors du regard des vivants. Donc, et puis après, on va avoir un peu suffisamment Dieu pour être bien panoptique. Donc, 4, a priori, ça fonctionne sur cette idée-là. Donc, ensuite, ça étincelle, tout va bien. Il y avait des mains d'hommes sous leurs ailes, sur les quatre côtés, et ils avaient les quatre, leurs faces et leurs ailes. Alors là, c'est un peu difficile au niveau du français, parce que c'est certainement un peu faux au niveau de l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a probablement un problème rédactionnel. Alors, l'information que je vous donne, je la dois à Édouard Dorme. C'est notamment celui qui a fait la traduction de l'Ancien Testament dans la Pléiade, l'ancien directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, professeur au Collège de France, un orientaliste de premier choix. Il dit qu'en fait, au verset 8, leur face, qui est l'avant-dernière expression, devrait être le début du verset 9. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de leurs ailes qui est de trop. En fait, idéalement, on devrait avoir. Ils avaient les quatre leurs ailes, leurs faces étaient jointes l'une à l'autre. Mais pas une répétition de leurs ailes. Et quand ils avançaient, en fait, dans l'hébreu, c'est dans leur avancée, quasiment un terme psychanalytique, il y a un suffixe féminin alors qu'il devrait y avoir un suffixe masculin. Et au verset 17, ça sera le même problème. Bon, ça c'est une information qui peut concerner quelques personnes, mais c'est pour vous dire que le texte hébreu n'est pas sans poser problème. Donc, à la difficulté d'imaginer ce qui est raconté, il y a en plus la difficulté de traduire, en fait. Peut-être que ça tient au fait que nous avons là encore une trace de suture entre deux traditions. Plutôt que de dire qu'il y a des erreurs de copistes, ce qui est somme toute possible, mais c'est quand même rare, on peut se dire qu'il y a là ici l'idée qu'on ne jette pas un mot et tant pis, il vient en redondance, mais quand on rassemble deux textes, on garde même les choses qui sont un peu redondantes. Alors après, ce qui est, en général frappe l'imagination, c'est le verset 10, et la ressemblance, donc c'est toujours notre demout, de leur face, c'était la face d'un homme, et les quatre, ils avaient la face d'un lion à droite, et les quatre, ils avaient la face d'un bœuf à gauche, les quatre, ils avaient la face d'un aigle. Donc, homme, lion, bœuf, aigle. Et là, vous avez le tiercé plus un dans l'ordre, c'est les quatre évangiles. Vous les avez dans l'ordre, alors que dans le livre de l'Apocalypse, vous les avez dans le désordre. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, je vous invite à l'ouvrir si vous voulez, c'est au chapitre 4, verset 6. Vous avez cette vision de quatre vivants. Apocalypse, chapitre 4. Ah, pardon. Oui, oui, dites. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et au chapitre 4, verset 6, il y a devant le trône, on va y revenir, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants. Ce n'est pas quatre animaux, hein. En grec, il n'y a pas d'ambiguïté. Semblable à un lion, le deuxième un être vivant et semblable à un veau, le troisième être vivant est comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Donc là, on les a dans le désordre. Hein, puisque on a Marc, Luc, Matthieu, et Jean, si on reprend la tradition classique. Alors, ce qui peut nous laisser entendre que la tradition du classement des évangiles se fait en utilisant Ézéchiel plutôt que le livre de l'Apocalypse. Bon. En tous les cas, vous avez une intertextualité. Oui.
C'est-à-dire Ézéchiel 1, parce qu'en Ézéchiel 10, quand les quatre
oui, de même qu'en Ésaïe 6, vous les avez aussi, dans un ordre qui n'est pas celui d'Ézéchiel 1.
Est-ce que l'ordre a une importance quelconque?
C'est-à-dire que quand on a le tiercé dans l'ordre, ça rapporte plus que quand on l'a dans le désordre.
Attends, ne compare pas ça avec le tiercé. Mais symboliquement, est-ce que ça a une signification, l'ordre? On les dit dans un sens ou dans l'autre?
Non, ça a une signification dans l'usage qu'on en fait a posteriori. C'est-à-dire que là, pour Ézéchiel, je ne pense pas que ça présente un intérêt particulier, mais dans l'histoire de l'Église, ça va être intéressant de voir à quelle source on se réfère. Est-ce qu'on se réfère à la source d'Ézéchiel 1, plutôt Ésaïe, ou plutôt l'Apocalypse? Est-ce que, du coup, la source qui est à l'origine de l'Apocalypse fait autorité de façon plus prégnante que le livre d'Ézéchiel? Pour l'histoire des idées, ça peut être intéressant. Sinon, pour notre exégèse personnelle, ce n'est pas tout à fait décisif. Et on mêle et le culturel et l'existentiel dans notre lecture. Alors, leurs faces étaient séparées par le haut, chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre et deux qui couvraient le corps. Donc, vous voyez, c'est comme les chérubins de l'Arche d'Alliance. Et là, le verset 12, ils allaient devant leur face, et eux, justement, ils ne tournoient point. Hein?
Je crois que ce qui est vraiment important, ils allaient chacun droit, là où l'esprit devait aller. Donc c'est comme si ils suivaient, ils suivaient le chemin de l'esprit, quoi. C'était l'esprit qui faisait qu'ils allaient droit, non?
Oui.
C'est l'esprit qui est là, qui les inspire, qui les dirige.
Oui, on pourrait dire selon ce que l'esprit de Dieu leur permettait d'aller. Est-ce que l'esprit de Dieu, c'est ce qui permet la démarche, ou est-ce que c'est ce qui choisit l'orientation? Le texte hébreu ne permet pas tout à fait de le savoir. Mais, en tous les cas, il y a le facteur esprit qui est déterminant pour le fait qu'il y a du mouvement. Mais est-ce que ça va jusqu'à choisir l'orientation? Ce n'est pas aussi évident que ça dans le texte.
Si chacun avait quatre faces,
ouais.
Et que chaque face, chacun dans une direction,
comment ça peut avancer? Alors qu'en fait, les quatre forces devraient se neutraliser. Le bilan des forces est nul en principe. Alors je vous ai fait une petite planche d'illustration pour voir comment les uns et les autres ont représenté un peu cela, comment ils s'en sont sortis de cette aventure. Donc il y a trois planches qui concernent la vision d'Ézéchiel proprement dite. Une qui est en haut à gauche, qui est singulièrement différente de celle qui est à droite. Et puis il y a une enluminure qui, elle, n'essaie pas de restituer la vision, mais qui est tout simplement une évocation. Mais les deux gravures s'efforcent de reconstituer la vision d'Ézéchiel au sens strict du terme. Et vous voyez de quelle manière ils s'y prennent et est-ce que ça provoque. Enfin, j'aurais pu vous demander de dessiner un peu, histoire de laisser aller votre talent créatif. Donc, on a l'esprit qui effectivement les anime et donc, eux, ils ne tournoient pas, hein, ils vont droit. Il n'y a pas ce verbe qu'on avait tout à l'heure au sens de s'entortiller. Il y a donc une sorte de contraste entre les deux manifestations.
Il me semble quand même que l'esprit, c'est ce qui est vraiment au centre. C'est le principe directeur, ce principe. Quand tu prends Élie dans sa caverne,
oui.
Il est à l'écoute de l'esprit de Dieu.
Oui, mais il n'y a pas d'esprit dans la caverne, il y a une colle, il y a une voix.
C'est un peu la même chose.
C'est un choix, mais le texte, lui, propose autre chose. Si
Dieu se manifeste soit par sa voix, soit par son esprit, enfin.
Oui, mais l'esprit ne donne pas de sens à ce qui est vécu. C'est la voix qui donne le sens. Du coup, pour cela, j'aurais tendance à dire que c'est pas l'esprit qui donne l'orientation. L'esprit donne le côté dynamique. C'est ce qui rend possible la démarche.
Là, pourtant, l'esprit, ils allaient chacun droit devant soi, là où l'esprit devait aller. Donc c'est quand même l'esprit qui donne une indication. Hein.
Oui, mais c'est l'esprit se rapporte...
Direction,
Oui, mais dans l'hébreu, l'esprit se rapporte au fait de marcher à l'acte. Pas au fait d'aller devant soi.
Enfin,
j'accepte la contradiction, mais il me semble que le texte parle plutôt du côté dynamique de l'esprit que du côté orientation. Oui. Oui. Le fait de marcher ?
Oui,
peut-être. Ça, je ne peux pas vous le dire. Enfin, je ne sais pas ce que Maïmonide a en tête quand il dit ça. Ensuite, quant à la ressemblance des animaux, leur aspect était comme des charbons de feu brûlants, comme l'aspect des torches. Alors, ce qui est intéressant, c'est le terme de torche, parce que la torche, c'est précisément ce que l'on a en Genèse 15 au verset 17, c'est quand il y a l'alliance entre Dieu et Abraham. Pour sceller cette alliance, on a le rite de couper l'alliance, et donc on coupe des animaux. Il y a la torche qui signifie Dieu qui passe entre ces animaux, de même qu'Abraham passera entre ces animaux. Et toujours dans ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, au Sinaï, en Exode 20, c'est au verset 18, il y a le peuple qui voit le Sinaï en feu, et en fait, c'est ce terme-là, c'est les torches lapides. Et puis dans les livres prophétiques, pour vous donner une autre référence, dans Ésaïe, au chapitre 62, le verset 1, lorsque la justice de Dieu va jaillir au milieu de l'iniquité, c'est encore une torche. Donc, c'est le terme qui est employé lorsqu'il y a une révélation du divin, ou lorsque le divin est présent. Et le feu courait entre les animaux, c'est ce qui se passe pour Genèse 17, hein, quand il y a l'alliance entre Dieu et Abraham. Le feu avait de l'éclat et du feu sortaient des éclairs. Et les éclairs, c'est quelque chose qui est encore connu parce que dans une autre théophanie, cette fois, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, verset 16, les éclairs, c'est précisément ce qui est visible.
C'est un autre sens que celui du buisson ardent, où c'est un feu qui consume mais qui ne consume pas.
Qui brûle mais ne consume pas.
Consume pas. Donc ça veut dire que le feu...
Bah, le feu, c'est Hesh.
De l'éternel, enfin, de la puissance de l'éternel, je sais pas, enfin de...
Bah, disons que c'est une sorte de signe dans les textes pour dire, voilà, il y a là certainement autre chose à voir. Et cette autre chose, ça se pourrait que ce soit le divin, en fait. Et quand il y a une conjonction de signes, eh bien, ça permet d'attester cette idée-là, en fait. Donc, je regardais les animaux couraient et ils se convertissaient, c'était le chouve, et retournaient, comme l'aspect du sillon de l'éclair. Donc, comme le disait Jean-Claude, sur le plan dynamique, sur le plan physique, ça ne fonctionne pas, cette affaire. Hein. Il y a une sorte de neutralisation du système. En fait, c'est un système non dynamique. Mais le texte dit que c'est dynamique. Alors, est-ce que le texte a tort ? Non. Enfin, il a tort sur le plan de la physique, mais comme ce n'est pas un texte de physique, il n'a pas forcément tort. Le texte a raison en ce sens où on n'a pas besoin de mettre un pied devant l'autre pour marcher. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être sédentaire tout en ne bougeant pas. Ça veut dire que ce texte nous parle d'une réalité qui n'est pas une réalité d'ordre physique. Le fait de pouvoir entreprendre une démarche qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, morales et autres, n'oblige pas que le corps soit en mouvement. Il peut y avoir du mouvement indépendamment du corps. Et c'est ce que dit ce texte. Ce texte, n'importe qui mettant en scène, comme ça a été tenté dans les deux illustrations que je vous donne, tente de mettre en scène la vision, arrive à quelque chose qui est statique. Donc, soit le texte s'est trompé, c'est pas tout une hypothèse, soit le texte parle d'un réel qui n'est pas celui du corps physique. Donc, il ne faut pas penser à des êtres vivants comme nous sommes vivants. Il peut y avoir une autre réalité.
Le feu a quand même plusieurs significations différentes. Soit il éclaire, ce qui est le cas ici, soit il chauffe,
ce qui n'est pas le cas ici, ce qui est pas le cas ici non plus.
Il détruit.
Ici, c'est juste la lumière qui est.
C'est juste la lumière.
Donc les torches, de ce point de vue-là, c'est des torches pour l'éclairage, oui. On va continuer pour voir en fait où ça nous mène, cette vision. Je regardais les animaux et voici une roue sur la terre à côté des animaux vers leurs quatre faces. Voilà, il y a une roue qui sort. Où est-ce qu'il y a des roues dans la Bible ? Les chariots de feu, oui, ça c'est vrai. Le char céleste d'Élie. Tout à fait. Et est-ce qu'on en a d'autres encore, des petits trous ou des grosses roues? Alors éventuellement, on peut en imaginer sur le chariot qui transporte l'Arche d'Alliance vers le temple de Jérusalem.
Dans le chariot, l'Arche d'Alliance était transportée par les brancards, là.
Ouais.
Il était à Dodom.
Ouais.
Il n'était pas sur un...
Ah, d'accord. Mais alors, dans 2 Samuel 6, quand on dit que l'Arche d'Alliance est sur un chariot tiré par des bœufs,
oui,
et qu'à un moment donné, ça bascule un peu, oui, et qu'il y en a un qui veut rattraper l'Arche, et que ça lui posait problème.
Ouais.
C'est peut-être quand même qu'il y a des roues.
Ah, dans ce cas-là, oui.
Dans ce cas-là, oui. Il y a un autre endroit où il y a des roues aussi. Et là, ça va faire la quadrature du cercle. Parce qu'en fait, c'est une quadrature du cercle, hein, cette histoire. Oui. Pardon ? Alors les roues à eau, ça, ça n'a pas trop attesté de mémoire. Mais par contre, il y a les roues de mer, la fameuse mer d'airain, qui est un des objets cultuels du temple. Que vous avez ici, sur la feuille, ça c'est la fameuse mer d'airain qui se trouve ici, dans le temple de Jérusalem. Et quand vous regardez cette mer d'airain, qui est un énorme mikvé, un énorme bain rituel, capable de contenir 45 tonnes d'eau, qui est donc utilisée pour la purification. C'est 10 coudées de diamètre, donc 4,4 mètres de diamètre, une hauteur de 5 coudées, donc 2,2 mètres.
C'est pas déjà 4 tonnes. J'avais dit, on ne sait pas.
Et alors, ça permet de recueillir de l'eau qui ensuite... Vous voyez la taille des petits bonhommes, là ?
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que après, c'est pas dedans qu'on fait les petites choses. C'est pas une piscine, quoi. Mais ça sert de réservoir. Et je vous enjoins à prendre votre texte biblique, enfin votre Bible, et à voir 1 Roi, chapitre 7. C'est là où on parle de la mer d'airain. Vous le prenez sous les yeux, parce que ça sera plus facile, mais je vais vous en faire la lecture. 1 Roi, chapitre 7, à partir du verset 23, je vais vous faire la lecture. C'est quand Hiram construit le temple. Voilà. Donc, il fit la mer de fonte, ou de bronze, ou d'airain. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, donc ça je vous ai expliqué. Une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, une circonférence que mesurait un cordeau de 30 coudées. Voilà, il y avait des coloquintes qui l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisaient le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur rang de 2 étaient fondues en elles, en une seule pièce. Elles étaient posées sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'ouest, 3 tournés vers le sud, 3 tournés vers l'est. La mer reposait au-dessus d'eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'une palme et son bord était façonné comme le bord d'une coupe en fleur de lys. Elle contenait 2000 bahts. Et voilà, etc. Sur les panneaux, verset 29, sur les panneaux qui étaient pris entre les montants, il y avait des lions, des bœufs, des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous, des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient. Chaque base avait quatre roues de bronze avec des essieux de bronze. Et aux quatre angles étaient des consoles. Les consoles étaient en métal fondu au-dessus de la cuve et au-delà des ornements. La cuve offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut, cette ouverture, etc., 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 etc.
C'est
un gros
que je posais.
Allez-y.
Dans les synagogues, est-ce qu'il y a l'équivalent?
Non. Non, parce que... Enfin, il y a toujours des mikvés, mais une construction de cette nature-là, de mémoire, non. Peut-être que ponctuellement, peut-être comme objet catéchétique. Ah, par contre, qu'on en ait retrouvé, ça, oui, peut-être. Mais a priori, avec toutes ces caractéristiques, en principe, il n'y en a qu'une, parce qu'il devait y avoir qu'un seul temple. En revanche, les bains rituels, oui, ça, c'est fréquent dans tout le judaïsme orthodoxe. Donc, vous voyez, cette profusion de détails et cet enchevêtrement d'objets n'est pas incongru. La mer d'Airain était déjà pas mal équipée en la matière. Bon, on continue rapidement. Je saute au verset 24. Bon, entre-temps, il y a l'histoire de la chrysolite. La chrysolite, c'est en fait en hébreu Tarshish. Tarshish, ça vous fait penser à la ville de Tarsis avec Jonas. Et Tarsis, on dit que c'est là qu'on faisait l'extraction de la Tarsis, la chrysolite, une pierre. Ensuite, donc le verset 24, « J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils volaient, comme le bruit de grandes eaux, comme la voix du tout-puissant, un bruit tumultueux, comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient les ailes. » Alors ça, c'est typiquement l'Apocalypse qui va exploiter cela. Aussi bien au chapitre 1, les versets 10-15, je vous les lis rapidement. Ah, Apocalypse... pour que vous ayez en tête cette rhétorique. Donc c'est, disons, Jean qui raconte cela. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de trompette. » Donc une voix forte, c'est ça. Hein. Et puis le verset 15, on a aussi, donc il a une vision, « Et ses pieds étaient comme du bronze, qui semblait rougi au four, et sa voix... » était comme la voix des grandes eaux. Donc on a vraiment cette conjonction. Et au chapitre 4, verset 6, « Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. » Vous voyez, on est encore dans cette utilisation... de quelque chose qui est universel. Hein, le fait qu'il y ait des yeux partout, c'est panoptique. C'est avant le Corbusier.
Est-ce que tu sais pourquoi on traduit ces bassins rituels par le mot mer?
Bah parce que c'était grand.
C'est ça, ça veut
dire... Par exemple, le lac de Galilée, en fait, c'est une mer. C'est Yam Kinneret. C'est la mer de la Harpe. C'est que c'est une grande étendue d'eau. On n'a pas le lac, l'étang, etc. On a soit la rivière, soit le fleuve, soit la mer. Oui.
Enfin, faut savoir, et c'est ce que je pensais, dans les temples mormons, il y a la même chose pour le baptême des morts.
Et la même chose, c'est-à-dire cette mer là?
Non, avec les, justement avec les.
Les représentations?
La représentation, voilà.
Exactement. D'accord. C'est décoré de cette manière-là.
Exactement.
Ah, d'accord.
Ouais.
Voilà.
J'ai dit pour le baptême des.
Des morts.
Chez les mormons, on baptise des morts?
Oui. Ah oui. De façon à ce que...
Pas les cadavres, hein, mais...
C'est pour ça qu'on fait des recherches généalogiques chez les mormons.
Voilà.
Par substitution. vous avez la mention du Tout-Puissant. Alors, le Tout-Puissant, c'est une traduction qu'il faut oublier. La voix du Tout-Puissant, en fait, c'est Kol Shaddai, c'est le verset 24. Kol Shaddai. Shaddai, c'est un nom qui désigne Dieu parfois. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que Shaddai, ça désigne plutôt la poitrine féminine. Un Shad, c'est le sein. Shaddai, a priori, ça doit être un duel. Donc c'est plutôt le dieu médecin qu'autre chose. Et vous voyez, on en a fait quelque chose de tout puissant au sens de... On le comprend comme guerrier. Et c'est, s'il est tout puissant, c'est dans sa capacité à être maternant, en quelque sorte, à être nourricier ou autre chose. Mais a priori, il vaudrait mieux garder cette racine étymologique de Shad, qui est le sein, que d'avoir l'idée d'un tout-puissant au sens de qui s'impose. Qu'est-ce qui peut faire dire cela? C'est que Dieu repose entre les barres de l'arche, d'alliance. En hébreu, entre les barres de l'arche, c'est Bein Shaddai.
Et Shekinah,
ça, c'est autre chose, c'est la présence.
C'est la présence.
Et il y a cette idée... Il y a certainement ce jeu de mots que vous retrouvez dans le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 8. Si vous ne savez pas que faire pendant les nuits à venir, vous demandez ce que signifie le verset 8 du chapitre 8 du premier livre des Rois. Vous essayez de l'interpréter. Et les plus anciens parmi vous le savent parce que je l'avais déjà expliqué. Mais vous aurez une sorte de pédagogie de ce qu'est la révélation. Bon, je ne m'étends pas plus dessus, mais en tous les cas, l'idée du Tout-Puissant, c'est une traduction qui mérite d'être mise de côté.
Dans la Bible Shoraki,
il a bien dit Shaddai. Shaddai, oui. C'est une translittération, il n'a pas pris de risque. De même que, des fois, on fait comme ça. Par exemple, le verset 26, une pierre de saphir. Bon, on ne s'est pas foulé, en fait, c'est Eben Saphir. Saphir, c'est un mot hébreu. Hein, la pierre de saphir, c'est le saphir. C'est au verset 26. Les femmes qui ne savent pas ce qu'est le saphir, c'est rare, hein, c'est cher. Ouais. Au verset 26, pierre de saphir, Eben saphir, enfin saphir. Bien, toc, toc, toc. Alors, vu l'heure qu'il est, j'en viens à ma lecture de tout cet ensemble. Comment on fait pour nouer la gerbe, la quadrature du cercle? On a Ézéchiel, dont on sait qu'il est prêtre, on sait qu'il est en exil, qu'il connaît donc la situation, la pire qui soit, le déracinement. Comment fait-il pour survivre et pour éventuellement accompagner son peuple? Eh bien, il prend tout simplement le matériau disponible pour lui, c'est-à-dire qu'il reprend tout le mobilier du temple et il en fait un objet unique. En fait, tout le temple est là. C'est le temple qu'on a dans cette vision d'Ézéchiel. Dans une description qui semble assez improbable, parce que le temple qui est grand est constitué, comme vous l'avez sur le plan, sur la feuille que je vous ai remise, est concentré en un objet unique. Et ce que veut dire Ézéchiel, c'est que, quoique déportés à des centaines de kilomètres de Jérusalem, nous restons dans le lieu saint, et même dans le Saint des Saints. Et un peu plus loin, on le verra la prochaine fois, je crois, la gloire de Dieu va même quitter Jérusalem pour rejoindre les exilés qui sont sur les bords du fleuve Kébar. C'est-à-dire qu'on va reproduire ce qui s'était passé dans le premier livre des Rois, au moment de l'inauguration du temple, avec la gloire de Dieu qui arrive sur cette communauté des exilés. Donc, comment faire pour survivre en milieu hostile? Eh bien, c'est de retrouver dans un environnement le plus étranger qui soit des éléments qui nous sont familiers et les réorganiser. En quelque sorte, on va reconstituer un lieu familier, on va reconstituer une maison, on va reconstituer cette terre promise. Et ce que fait Ézéchiel, c'est de dire, en fait, vous pensiez avoir laissé là-bas votre identité, eh bien, votre identité, elle est ici aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas exilé. Vous n'êtes pas déraciné. Et ça va avoir quoi comme fonction ? C'est que lorsque il y aura le retour d'exil, il va y avoir une sorte de conflit. Qui est le véritable Israël ? Est-ce celui qui est resté sur place dans le lieu saint, la terre promise ? Ou est-ce celui qui a été exilé ? Quel est le véritable Israël ? Eh bien, Ézéchiel pourra argumenter sur le fait que, en tous les cas, le peuple des exilés n'a pas démérité après une longue servitude, etc. Donc, Ézéchiel construit aussi la légitimité du peuple qui est loin de ses bases.
La Gola serait le petit reste.
Authentique. Le Shehar, dirait le petit reste, dirait Ésaïe. Et qui, dans une certaine mesure, ça va être le problème. Hein, c'est que Ézéchiel pose les bases du judaïsme. Et il va en quelque sorte dire, c'est le petit reste pur. C'est-à-dire que, on va le voir à travers les différents chapitres, on a fait nos preuves. Et donc, on est estampillé. On a acquis notre titre de noblesse. Ce n'est pas tout à fait de l'ordre de la grâce seule que les choses vont se jouer. Mais, à la fin, vous verrez que c'est un peu quand même comme cela que ça se passe. Du coup, il reste 3 minutes. Je vous donne 2 éléments encore. Chapitre 2. On a un jeu de mots au verset 4. Ce sont des fils à la face impudente et au cœur obstiné. Donc, on commence à avoir des critiques sur Israël, qui, franchement, n'écoute pas, désobéit, etc. Le cœur obstiné, en fait, c'est un cœur rizek. Donc, c'est un cœur Ézéchiel. Enfin, Ézéchiel sans L. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots sur le nom d'Ézéchiel. C'est-à-dire que, à la limite, on pourrait dire, sans Dieu, le peuple est obstiné. Avec Dieu, le peuple est fort. Vous voyez, il y a une sorte de double sens qui est maintenu. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Ézéchiel fait figure récapitulatrice du peuple. Le peuple qui est obstiné peut être à nouveau conduit par le divin.
Et être fort.
Pardon ?
Et être fort.
Et être fort, mais d'une force qui n'est pas celle de la violence, mais de la puissance. On verra ça à l'usage.
Il y a quelque chose là, c'est dommage qu'on ait pas eu le temps d'approfondir le chapitre 2. Là. Il est dit plusieurs fois, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'écoutent pas.
Dans tous les cas.
Dans tous les cas.
Oui.
En fait,
ce sont des rebelles.
Dans beaucoup de cas, les prisonniers, les exilés, ils vivent de leurs souvenirs. Et c'est ça qui les rend encore combatifs.
Il y a une actualisation.
Voilà.
Et une réorganisation.
Voilà. Mais tous les gens qui sont loin de tout, finalement, ils vivent dans... Et c'est ça qui les tient fort.
C'est-à-dire qu'il y a là une possibilité. Il y a un exemple pour pouvoir tenir en situation d'exil. Oui.
Si je vous pose une question, Candy, est-ce que c'est pas à cette époque qu'a été écrite l'histoire du peuple juif,
C'est à partir de cette période que s'écrit l'histoire biblique.
C'est ça. Oui.
Parce que on va avoir en fait donc des prêtres qui sont capables d'écrire, qui vont être au contact de la littérature babylonienne. Et on va voir qu'il y a des emprunts à la littérature babylonienne pour repenser. L'histoire du peuple. Par exemple, le déluge. On utilise des textes qui existaient déjà. Quand vous découvrez l'épopée de Gilgamesh, Enuma Elish, etc., bon, ce sont autant de textes qui existaient avant les textes bibliques qu'on emprunte, mais qu'on va repenser. C'est-à-dire qu'on utilise, ce qu'on va appeler des motifs littéraires pour faire de la théologie. On utilise en fait le bien commun culturel, mais on l'ajuste pour qu'il dise quelque chose qui est de l'ordre de la vérité que l'on veut partager. C'est comme si on détournait la publicité pour une prédication ou des choses comme cela.
C'est quand même la fin du chapitre 2. Par trois fois, il est dit que le peuple est rebelle.
Oui.
Ils sont des rebelles.
Mmh.
Donc, dans leur ensemble. Il n'y a pas, il y en a pas un qui mérite d'être... Ils sont rebelles. Donc,
ouais.
C'est quand même une situation de... presque de condamnation.
Mais non, parce que le livre va continuer. C'est-à-dire que si on s'en tient à ce chapitre-là, c'est effectivement assez épouvantable. Mais il y a notamment un chapitre que l'on abordera où, pour la première fois dans les textes bibliques, on va injecter la question de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on va en finir avec la responsabilité collective pour dire « chaque individu est individuellement responsable ». C'est la fameuse phrase « il ne vaut plus ce dicton, les parents ont mangé des raisins verts, les enfants ont eu les dents agacées hein, ». Ça va être Ézéchiel, Jérémie le fait aussi, et on aura l'occasion de le voir. Il y a une expression qui va revenir souvent et qu'on trouve à partir d'ici, c'est la question du « fils de l'homme ». « Fils de l'homme », ce n'est pas une expression qu'on trouve d'abord dans les évangiles. « Kebar Nasha » en araméen, on le trouve chez Daniel. Et ici, c'est la manière de nommer Ézéchiel. Chapitre 2, verset 1, il me dit « Fils d'homme, tiens-toi debout sur tes pieds. » Soit dit en passant, il le ressuscite. Ézéchiel, au contact de Dieu, s'est écroulé face contre terre. C'est exactement ce qui s'est passé à Marie dans le jardin au moment de Pâques. Elle s'écroule en découvrant que le jardinier, en fait, c'est une figure du ressuscité. Et il va lui dire « bon, bah, relève-toi ». Et là, pareil. Donc vous voyez, il y a la présence du divin qui, en quelque sorte, nous fait perdre nos moyens, mais qui aussi nous rend à nouveau capables de nous tenir debout. Ce qui est assez étonnant, c'est que, logiquement, quand... on est dans une attitude de compréhension d'une communion avec une présence réelle, du divin. On devrait être comme Marie, comme Ézéchiel, s'effondrer au sol. C'est-à-dire que on peut pas, le contact du divin ne peut pas nous laisser indemne. Et justement, on est dans le registre de la communion juste après. C'est le début du chapitre 3, avec cette histoire de manger le livre. Juste avant, un petit détail linguistique. Le dernier mot du chapitre 2, c'est « i ». Et « i », il faudrait le traduire par « hélas ». Donc, des lamentations, des plaintes et des « hélas » étaient écrits. Bon, ça, c'est pour le détail. Mais je reviens à cette histoire de manger le livre. Oui, et puis on a fini là. Deux choses. Je vous fais un petit coup au tableau. En hébreu, « manger », ça s'écrit comme ça. Donc c'est Aral. Ça, c'est la première lettre de l'alphabet. Ça veut dire, ça vaut 1. Et ça, kol, c'est en hébreu tout. Aral, manger, c'est ramener tout à 1. C'est le principe même de la digestion. En fait, rien de neuf sous le soleil. Mais, comme je le dis de temps en temps, c'est certainement ce qui peut expliquer, pour une part, les interdits alimentaires, notamment ne pas manger de cochon, parce que le cochon est omnivore. Donc manger du cochon, c'est manger un animal qui se nourrit de la violence, hein, puisqu'il mange notamment de la viande. Et donc il mange quelque chose qui a été tué ou assassiné même. Et ici, on est dans ce même registre, un registre de communion. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement falloir s'équiper d'un texte qui sera en quelque sorte notre modèle de conduite, qui sera notre règlement. Il va falloir le manger, le digérer, et donc ne pas rester attaché à la lettre, mais par soi-même d'incarner en fait l'esprit de l'ensemble. Ça, c'est exactement le début de l'évangile de Jean. La parole qui devient chair, c'est ça. Et la chair, en hébreu, c'est Bachar. Wizaout Assad. Et Bachar, ça veut dire aussi évangile. C'est nouvelle, en fait, Bachar, en hébreu. Et donc, manger la nouvelle, quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est, en fait, ma chair, ceci et l'évangile. Donc, manger l'évangile, c'est exactement ce que fait Ézéchiel. Et donc, c'est, dans un autre registre, non pas être simplement circoncis des lèvres, mais aussi du cœur.
Est-ce que tu crois que lorsque Jésus disait manger ceci et la chair et le sang, les Hébreux, enfin ses disciples, faisaient référence à cette vision d'Ézéchiel ?
Je pense que oui, d'autant que c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le rituel d'intronisation du grand prêtre qui est lisible dans un écrit intertestamentaire du Testament de Lévi. Parce que le pain et le vin, c'est les offrandes végétales qui sont les offrandes par-dessus de toutes les offrandes, les fameuses minéras. Et dans Amos 8, verset 11, c'est la dernière référence que je vous donne, l'idée c'est que Dieu suscite le désir de se nourrir de sa parole, qui est la véritable alimentation. Et ça fait le lien avec Jean 6, le pain de vie, la vraie nourriture. Et il y a une mécompréhension entre les gens qui sont autour de Jésus et Jésus sur c'est quoi manger sa chair. Et ceux qui sont autour de Jésus pensent que c'est manger sa chair au sens strict du terme, parce que en fait, ce sont de mauvais exégètes et de mauvais herméneutes. Pour Jésus, il est évident que manger sa chair, c'est en fait manger de la parole au même titre qu'Ézéchiel. Et aujourd'hui encore, dans le judaïsme, il y a un rituel qui veut que le catéchumène qui démarre écrit un peu l'alphabet sur une tablette, on badigeonne de miel et il lèche la tablette. Ça donne des idées, ça. Bon. On a dépassé la loi, donc il ne faut pas non plus forcer, on va s'en tenir là. Et la fois prochaine, on verra les chapitres 9 et 11, justement avec la question du châtiment, la gloire de l'Éternel, et puis qu'est-ce qu'il faut entendre par nouvelle alliance.